Bonjour, je vous propose de commencer sans plus tarder parce que la journée est bien chargée. Je suis heureux de vous accueillir ce matin au Collège de France dans l'amphithéâtre Maurice Alvax pour une journée d'études sur Marcel Mauss. L'occasion, c'est le travail sur ces archives qui sont revenues de l'IMEC, où elles avaient séjourné un certain nombre d'années. Lors des travaux du Collège de France, nous avions délocalisé un certain nombre des archives des chaires du Collège de France. Et à la fin des travaux de rénovation de la bibliothèque et de ce site, nous avons souhaité récupérer les archives qui étaient en dépôt à l'IMEC, parce que la mission de la bibliothèque du Collège de France est aujourd'hui patrimoniale, de nature patrimoniale. Et donc, il s'agissait de regrouper ici tout ce qui pouvait concerner l'histoire du Collège, l'histoire des chaires. Et il est évidemment beaucoup plus aisé de travailler sur ce patrimoine dès lors que tout est rassemblé ici. Nous avons la grande chance au Collège de France que nos archives soient toutes ici. Il y a des compléments aux archives nationales sur lesquels commençons à travailler, mais nous avons l'essentiel pour travailler ici, et je crois que depuis que ces archives sont revenues, ça a eu un effet très important sur la fréquentation de la bibliothèque du Collège de France et des archives du Collège de France. Alors voilà, on va donc aujourd'hui voir ce qui peut être fait, c'est une étude de cas. Il y en aura d'autres dans le passé. Je sais que ce colloque sur Marcel Mauss, qu'on a organisé assez rapidement, justement, pour tirer profit du travail qui est fait et pour relancer le travail, a suscité l'envie d'autres colloques sur Mauss, d'autres colloques sur d'autres. Quelques mots d'introduction. La carrière de Marcel Mauss au Collège de France a été assez brève. Et son entrée a été difficile et son départ a été pénible. Donc ce n'est pas la plus belle des carrières, elle est entourée d'hostilité un peu partout, y compris durant sa présence. Je rappelle que très vite, parce que tout ça est bien connu, c'est encore rassemblé dans l'introduction de la publication de la leçon inaugurale de Marcel Mauss au Collège de France. C'est vous qui l'avez publié il y a quelques années, vous rassemblez les éléments, ils sont aussi rassemblés dans la biographie de Marcel Fournier. C'est une entrée difficile, comme celle d'une nouvelle discipline. Nous avons, dans le cadre de ce programme de recherche intitulé « Passage des disciplines », lancé depuis quelques années, nous sommes intéressés à la redistribution des disciplines depuis l'observatoire que peut présenter le Collège de France et depuis l'entrée que peuvent nous donner les archives du Collège de France. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous avons un colloque Darwin au Collège de France, après un colloque Freud au Collège de France que nous avons fait l'an dernier, toujours avec l'idée de nous interroger sur ces nouvelles discursivités, ces nouveaux savoirs, et comment ces nouveaux savoirs sont intégrés ou exclus dans le haut enseignement en France et dans la recherche en France. Et nous prévoyons dans cette série de colloques sur ces nouvelles discursivités et leur intégration ou leur exclusion du collège, nous prévoyons d'autres colloques, dont un colloque sur Durkheim au Collège de France. C'est l'idée de figures qui ont été exclues ou dont l'intégration a été difficile. Et il faut rappeler donc que les choses commencent avec l'exclusion de la non-élection de Durkheim en 1897. Et donc c'est un beau cas d'une discipline qui ira à la Sorbonne, mais qui ira à la Sorbonne sous des masques de pédagogie ou d'autres choses. Mauss a donc été élu, au fond, à la place de Durkheim, mais très longtemps après, hein, puisque en 1907, il n'a pas été élu. En 1909, de nouveau, il n'a pas été élu. Hein, et à ce moment-là, c'était dans des chaires relatives à l'histoire des religions. Et son élection en 1930 est probablement l'une des plus difficiles dans toute l'histoire des assemblées du Collège de France, puisqu'il a fallu trois assemblées pour qu'enfin il soit élu. La première assemblée, c'était la succession, je rappelle, c'est la succession de Jean Isoulé, hein, qui avait été élu en 1897, précisément, et qui était donc là depuis 33 ans. On faisait de longs séjours au collège à l'époque. Je rappelle qu'il n'y avait pas encore d'âge de la retraite, hein, en 1931, donc on mourait sur place. Et c'est à la succession du décès d'Isoulé que cette chaire était vacante. Et il a fallu pas moins de trois élections, je disais. Isoulé est mort en 1929. Le 6 novembre 1929, Mauss contre Gilson, 22 voix contre 22, et au bout de, si mes souvenirs sont bons, 4 tours, on s'est arrêté à 22-22. Ça a recommencé 2 mois plus tard, le 12 janvier 1930, et ça s'est arrêté par 20 voix contre 20. Et c'est seulement le 15 juin 1930, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre cas de cette nature, où Mauss a été élu contre une proposition d'histoire de la philosophie française présentée par Leroy et une histoire de la philosophie au Moyen-Âge présentée par Massignon et la sociologie. Maintenant, c'était sociologie, hein, le titre qui était proposé. Quelques mois plus tôt, c'était, si mes souvenirs sont bons, encore philosophie sociale, le titre d'Azoulay, intitulé d'Azoulay. La sociologie a été approuvé au troisième tour à une voix de majorité. Donc c'est vraiment une entrée difficile au Collège de France que celle-là. Je le disais, il n'y avait pas d'âge de la retraite, hein, en 1931. Donc quand Mauss a été élu, il pouvait, en 1930, leçon inaugurale en 1931, il pouvait espérer rester longtemps. Donc on dit parfois que c'est une élection tardive. Ce n'est pas si tardif dans le contexte de l'époque. Il y a eu un âge de la retraite à 75 ans en 1931, donc un an après, et l'âge de la retraite a été porté à 70 ans en 1936, sous le Front populaire. Il est toujours à 70 ans depuis, donc il n'a pas changé depuis 1936, mais... vous voyez que les conditions du séjour de Mauss au Collège de France ont été réduites par ces deux transformations successives du corps des professeurs. Donc, une entrée qui n'a pas été facile, et on peut dire qu'il y avait des hostilités qui étaient contre la sociologie, en général, d'un certain nombre de titulaires, en particulier Édouard Leroy, hein, successeur de Bergson, et puis Paul Hasard. Paul Hasard, qui était proche de Leroy. Et puis, il y avait aussi des hostilités, l'un et l'autre, c'était non seulement contre la sociologie, il y avait des hostilités de ceux qui représentaient le parti catholique au Collège de France. C'était les deux mêmes, et puis il y avait peu de sympathie de la part des disciplines les plus érudites. Je dirais que ça s'est vérifié en 1940, hein, au moment du statut des Juifs, hein, puisqu'en octobre 40, Mauss, ainsi qu'un certain nombre d'autres professeurs du Collège de France, ont été concernés par la loi de Vichy sur le statut des Juifs. À ce moment-là, il y avait 8 professeurs qui étaient concernés au Collège de France par ces nouveaux statuts, par ces statuts, par cette déchéance. Et dans le texte de la loi de Vichy, dans l'article 8, il y avait possibilité d'un relèvement de déchéance pour titre exceptionnel. Donc, les professeurs du Collège de France ont voté sur les 8 cas de professeurs juifs pour savoir si on demanderait le relèvement de la déchéance. Et le scrutin a eu lieu le 8 novembre 1840, hein, donc ces demandes d'exception. Lorsque j'avais travaillé il y a quelques années sur Bernard Failly, c'était une des découvertes qui m'avait paru la plus intéressante dans les archives du Collège de France, c'était les bulletins de vote, qui sont encore tous là. Hein, les bulletins de vote sur le relèvement des déchéances en 40. Il y avait 26 présents. La liste des 26 présents, c'est le 8 novembre 40. La liste des 26 présents est de la main de Louis Robert, qui assurait le secrétariat. C'était le plus jeune. Et je vous donne rapidement les votes sur les 8 cas. Nathan Larrier, bon, c'est un médecin, hein, médecine coloniale, 5 oui. Donc, pour le relèvement de déchéance, 12 non, 8 croix. Hein, les croix équivalents au non. C'est-à-dire 5 oui, 20 non. 5 pour relever, 20 pour ne pas relever de la déchéance, 25 votants. Mauss, 6 oui, 8 non, 11 croix. Donc 6 oui, 19 non pour le relèvement de la déchéance. Lévy, Isidore Lévy, 7 oui, 14 non, 4 croix. Donc 7 oui, 18 non. Paul Léon, cher de Beaux-Arts, art monumental, 8 oui, 11 non, 6 croix. Donc 8 pour, 17 contre. Mandelbrot, mathématicien, 9 oui, 9 non, 7 croix. 9 oui, 16 non. Benveniste, 10 oui, oui, 4 non, 3 croix. Enfin, un qui est sauvé. Bloch, 18 oui, 2 non, 5 croix, donc 7 contre. Et enfin, Meyer, c'est André Meyer, le médecin qui était vice-président de l'Assemblée des professeurs, 23 oui, 1 non, 1 croix. Donc il y a 3 professeurs sur les 8 pour lesquels une exception était demandée, hein, le relèvement de déchéance, Benveniste, Bloch et Meyer. En fait, c'est par erreur pour Benveniste, parce que Benveniste était sous les drapeaux, il était soldat, donc il ne pouvait pas être déchu. Hein. Benveniste n'a jamais été déchu du Collège de France. Alors, on peut dire qu'il y avait des considérations très diverses. Hein. Ce Mauss et Lévy étaient tout près de l'âge de la retraite. Les considérations sont évidentes, mais Mandelbrot et Benveniste, qui étaient tout jeunes, qui venaient d'être élus, donc ce n'est pas non plus ces considérations qui ont pu jouer. On peut penser qu'il y a les questions de réseau qui peuvent aussi avoir joué. En tout cas, Mauss n'a pas été relevé de sa déchéance, il a demandé sa retraite. Et peu après, lorsque Carcopino a été secrétaire d'État à l'instruction publique, il a donc bénéficié d'une retraite à la date du 20 décembre 40, donc à la date de l'entrée en application du statut des Juifs. Pendant les années de la guerre, il semble qu'il ne soit pas beaucoup revenu au Collège de France. Là aussi, j'avais trouvé dans les archives, à l'époque où j'avais travaillé sur Bernard Failly, que pendant les années de guerre, où on avait beaucoup de difficultés à se chauffer à Paris, les professeurs du Collège de France se chauffaient grâce au bois de Meudon. Nous avons toujours une station de Meudon, hein, c'était la station de Berthelot. Le bois de Meudon servait à chauffer les professeurs du Collège de France. On leur distribuait des stères de bois. Et j'ai trouvé que Farral, qui était l'administrateur, accordait du bois à Mauss, bien qu'il ne fût plus professeur ici. Il a bénéficié de ce tout petit privilège. En 1944, à la Libération, Mauss a été réintégré, comme les autres, y compris Benveniste, qui n'avait jamais été révoqué, mais qui a tout de même été réintégré avant correction par un nouvel arrêté. Donc il y a un arrêté du 16 octobre 1944 qui le réintègre au Collège de France, mais à la différence des autres, qui ont profité pour refaire une année d'enseignement au Collège de France, comme Isidore Lévy, qui était plus âgé, Mauss a aussitôt demandé sa mise à la retraite, et donc l'arrêté de réintégration est très rapidement suivi d'un arrêté de mise à la retraite, alors qu'il aurait pu, enseigner 2 ans à partir de 1944. Il aurait encore pu enseigner 2 ans, puisqu'il avait été mis à la retraite lorsqu'il avait encore 1 an et 5 mois à faire. Donc c'était sa décision de ne pas revenir ici. Je rappelle ça parce que ça nous montre que c'est une... nous allons parler de Mauss en partie et les archives du Collège de France, mais vous voyez que ce n'est pas une histoire particulièrement heureuse ni facile, ni à l'entrée, ni à la sortie. Et je crois que c'est donc d'autant mieux que nous nous intéressions à ce que nous pouvons trouver ici, dans les archives. Alors, je vous disais, c'est dans le cadre de ce programme qui s'appelle « Passage des disciplines, histoire globale du Collège de France », où, donc, à partir de cet observatoire, nous nous intéressons à la cartographie des disciplines à Paris, en France et au-delà, et à son évolution. Et donc, c'est particulièrement intéressant de mettre le projecteur sur ce cas de Mauss avant d'étudier un certain nombre d'autres cas, y compris la semaine prochaine. Je crois qu'il est l'heure de passer à la première communication. C'est donc celle de Christophe Labeaune, des archives du Collège de France, et c'est lui qui a eu l'initiative de ce colloque, qui est venu nous le proposer. Je rappelle que nous devons remercier PSL, puisque ces recherches sont faites grâce aux subsides de PSL que nous avons obtenus, et l'unité de recherche du CNRS École Normale, Collège de France, République des Savoirs. C'est donc le financement que nous avons. Vous avez la parole.